Radio G.
101.5 FM.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Comme toutes les semaines, on va parler cinéma, on va parler bande dessinée, on va parler de séries télé, de jeux vidéo, de musique, de tout ce qu'on aime. Bande Geek Mafia, votre émission Info Culture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.
La radio qui fait le point. 101.5 FM. J'ai dit quoi? 101.5?
Slow it down some, no split clown bum, your gold hit sound dumb, hold it now, crown them, where you found them at, got around town, coulda drowned in it, woulda floated, bloated, voted, sugar coated, loaded, hip shooter, draw for the poor, free, coffee at the banks, hit through the straw, none more for me, thanks, that blanks the roar, that dank sure stank lit, sank past the pit for more hardcore prank spit, crank it on blast, roll past front street, blew the whole spot like some old ass with skunk meat, these kids is too fast, too off a junk tree, who could get looser off a crunk or a funk beat?
Something is starting today. Where did it go? Why you want it to be where you know November has come and it's gone away. Something is starting today.
A spigot. My guess is yes you can, like can I kick it wicked, lick a shot if you happy and you know it as you clap your hands to the thick snot of a poet flowing, broken pen and I'm in, cope hymen, dope or rhyming, more worth it than the whole diamond, acquired off the black market, a wire tapping couldn't target, a jar spit, the rapid fire spark lit, zit. A rapper, bug zapper, and it don't matter after if there's a thug or dapper. Plug your trap or it's maximum exposure. The beast got family members asking him for closure. Send him a gun and tell him clean it. Then go get the nun who said her son didn't mean it. She wore a filled in thong or billabong. And said, nah, for real, I'm a villain, I'm a gorilla job.
Something is starting today. Where did it go? Why you want it to be where you know November has come?
Sur Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture sur Radio G 101.5 FM. Et si nous parlions série avec Héloïse et Seb? Let's go, guys!
Bonjour à
à tous, c'est Héloïse en direct de Nantes et aujourd'hui je vais vous parler de deux séries que j'ai adoré regarder pendant ce reconfinement. La série The Queen Gambit, donc le jeu de la dame en français, et la série M'entends-tu ? Tout d'abord, le jeu de la dame, c'est une mini-série américaine en 7 épisodes d'environ 56 minutes qui a été créée par Scott Frank et Alan Scott. Dans cette série, on suit Beth Harmon, qui est une prodige des échecs, orpheline, dans sa quête pour devenir la meilleure joueuse d'échecs du monde, tout en luttant contre ses problèmes émotionnels et une dépendance aux drogues et à l'alcool. Pourquoi j'ai adoré cette série ? Tout d'abord parce que c'est beau. Honnêtement, c'est juste beau. Les décors, les costumes, l'atmosphère des années 50-60, le casting merveilleux, honnêtement, il n'y a rien à acheter dans cette série. Et ça fait longtemps que j'avais pas regardé une série aussi qualitative. Le seul défaut, mais du moins en fait, c'est ma seule déception, c'est que cette histoire, elle est pas tirée d'une histoire vraie. Donc c'est seulement l'adaptation d'un roman écrit par Walter Tevis, qui a été publié en 83. En parlant du casting, est-ce que vous aviez remarqué, pour ceux qui l'ont vu, que Harry Melling, il faisait partie du casting ? Alors, là comme ça, ça vous dit rien, mais si je vous dis, le cousin Dudley. Oui, oui, celui d'Harry Potter. Honnêtement, il joue extrêmement bien et j'étais ravie de le voir dans autre chose que dans son rôle de cousin tyrannique. En tout cas, tout ça pour dire que même si tu ne connais rien aux échecs, je te le dis, fonce voir cette pépite sur ta plateforme de streaming préférée. Tout le monde en parle en ce moment et pour cause. Ensuite, je vais passer à la série M'entends-tu ? M'entends-tu, c'est une série télévisée québécoise créée par Florence Lompré. Dans cette série, on suit le quotidien de Caroline, Fabiola et Ada, qui sont trois jeunes femmes provenant d'un milieu défavorisé, qui, malgré leurs différences, sont de grandes amies, toujours présentes les unes pour les autres. Pourquoi j'ai adoré cette série ? C'est principalement pour les thèmes qu'elle aborde. On y parle beaucoup de sororité, les trois amies, elles s'entraident malgré leur quotidien difficile. Et ensuite, on y aborde des thèmes beaucoup plus difficiles, comme les addictions, alors notamment l'alcoolisme d'une des protagonistes, les relations toxiques, donc que ce soit avec une des protagonistes qui était en couple avec un homme pervers, narcissique et violent, ou l'une d'elles qui a été élevée par une mère absente et destructrice. Donc on parle vraiment de ces relations toxiques. Cette série, je l'ai aimée parce qu'elle est puissante, en fait, de par ses thèmes abordés de manière vraiment crue. Et on peut voir que chaque personnage, il est travaillé, on ressent ce qu'elle vit, on rit, on a pitié, on a peur, on est triste. Voilà, on ressent tout avec elle. Donc je vous la conseille, et je vous conseille de la regarder parce que surtout elle prend aux tripes. Et honnêtement, après avoir fini la saison 2 la semaine dernière, j'en veux encore. Voilà, je suis contente de vous avoir fait partager deux de mes coups de cœur du moment sur Netflix. N'hésitez pas à venir en parler sur le Facebook de l'émission Bandit Mafia. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon reconfinement et surtout bon courage à tous dans cette période pas très fun. Et à bientôt pour une prochaine chronique qui parlera de jeux vidéo. Mais chut, je vous ai rien dit.
À tous, ce soir je vais vous parler de la série 10%. Alors la très attendue dernière saison de 10% a enfin dévoilé l'avenir d'ASK et donc celui d'Andrea, Mathias, Gabriel, Noémie, Arlette, Hervé, Camille et Hicham. Il est préférable de les citer tous tant, au fil des trois saisons précédentes, l'ego de ces agents de stars s'est avéré aussi important, conquérant ou froissé, que celui de leurs célèbres clients. Ce qui n'empêche pas ces ultimes 6 épisodes de reposer sur le même savoureux principe qui a beaucoup contribué au succès de cette série en immersion dans les petits secrets de casting et de fabrication du cinéma français, des people invités à jouer leur propre rôle en collant plus ou moins à leur présumé ou véritable travers. Donc, à faire preuve de cette autodérision qui passe souvent pour être l'apanage des Américains. Toujours partant, si la comédie en vaut la chandelle, à flirter avec leur propre ridicule dans la fiction ou à faire les pitres dans les shows télévisés. Quand l'ancien agent Dominique Besnéard eut l'idée, à la fois insolite et judicieuse il y a plus de 5 ans, d'une fiction sur ce métier ignoré du plus grand nombre, il n'imaginait pas à quel point les stars françaises seraient difficiles à convaincre et le nombre de refus qu'il essuierait. Heureusement, Cédric Clapiche, aux commandes de la saison 1, pouvait compter sur une de ses comédiennes fétiches et totalement étrangère à toute forme de narcissisme, Cécile de France. Elle ouvrit donc le bal en beauté, avec des mésaventures autour de l'injonction aux injections de Botox pour une comédienne de 40 ans. Elle ouvrit en fait le bal des actrices,
car ces dames semblent avoir moins de problèmes, quel que soit leur niveau de staritude, à se moquer d'elles-mêmes. Et il suffit de faire le compte, toutes saisons confondues, pour s'en convaincre. Nombre de guests masculines, à peine plus d'une dizaine, dont Joey Starr et François Berléand, les deux premiers hommes à avoir accepté de tenter l'aventure. Puis, par exemple, Jean Dujardin, dans un grand numéro d'Actor Studio, incapable de sortir de son rôle à la fin d'un tournage. Nombre de guests féminines, une vingtaine. Dès le début, en effet, Lynn Renault ou Françoise Fabian s'amusaient comme des petites folles à jouer les pestes cartes vermeilles. Nathalie Baye et Laura Smet mettaient tendrement en scène leur rapport filial entre actrices. Audrey Fleurot rappelait que jongler entre cette profession glamour et la maternité était un agenda à plein temps. Grâce à Monica Bellucci, Béatrice Dalle, Isabelle Adjani ou Juliette Binoche, partent ensuite s'ajouter bon nombre de thèmes et problèmes attachés à la célébrité. Le rêve pour une grande séductrice à l'écran de vivre une histoire d'amour avec un homme normal, le refus de la nudité quand un scénario ne le réclame pas, les éternels malentendus sur la star capricieuse ou la galère d'une maîtresse de cérémonie dans une robe improbable et prise d'une violente envie naturelle à quelques minutes d'entrée en scène. Autant de clichés délicieux à pasticher, mais qui restaient attribuables aux uns comme aux autres. Qui était capable de se moquer plus précisément de sa propre vie ? Julie Gayet avait osé carrément rire de son statut de compagne présidentielle harcelée. Donc voilà, 100% gagnante, hein, Adjani, Huppert, Gayet, elles ont été de plus en plus nombreuses à oser rire de leur travers dans la savoureuse série 10%. Bien leur en a pris.
Rechauché. 100%. 105 FM.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous parler de Idols, un groupe de rock anglais. C'est un groupe composé de 5 activistes néo-punk au grand cœur, un tonitruant groupe de Bristol qui a explosé voilà 3 ans avec son album Brutalism. Ils y faisaient ressurgir un rock primal, préférant l'urgence à l'élégance, l'honnêteté à la posture. Leur musique un peu lourde mais sans concession, enthousiasmait surtout par ses bonnes intentions et prenait sa dimension pendant les concerts à la fois radicaux et festifs, enragés et communicatifs. Un deuxième album à l'intitulé plus engageant, Joy as an Act of Resistance, la joie comme un acte de résistance, suggérait pourtant que ces Anglais dépenaillés étaient plus fins qu'ils n'apparaissaient. Et c'est encore leur prestation sauvage au milieu du ronronnement écolo-électrochique du festival Wheel of Green en 2019 qui tranchait. Peu après, un enregistrement public symboliquement réalisé au Bataclan, à Paris, suggérait que le groupe, conscient de ses limites, misait plutôt sur le bruit et la fureur que ses performances scéniques. Erreur. À l'instar de son appellation à double détente, prononcée en anglais, le nom signifie autant « idole » que « oisif », Idols est loin d'être unidimensionnel. Ultra Mono, troisième album studio, apparaît alors que la pandémie a fortement paralysé la scène musicale. Il sonne comme un revigorant cri de révolte et d'amour. La musique cogne plus fort que jamais, mais elle est mieux maîtrisée et concentrée autour des plaidoyers abrasifs de Joe Talbot, ex-teigne alcoolique reconverti en Saint-Bernard et laissé pour compte d'une Angleterre post-Brexit. Contrairement à tant d'autres, il a vécu le confinement comme une formidable expérience de partage et d'émulation à distance. « Je me sens vraiment privilégié », affirme-t-il à Télérama. Le soutien de nos fans a été incroyable et comme l'album avait été bouclé l'hiver dernier, on a pu régulièrement les nourrir de nouveaux morceaux, être témoin de leurs réactions et recevoir leurs encouragements. Être apprécié ainsi, se sentir utile aux autres, on ne peut rêver mieux. La trentaine largement entamée, Talbot parle avec spontanéité, il est conscient de sa chance et entend la partager. « J'étais un type horrible, agressif et malheureux. Ce groupe m'a transformé, faisant de moi un homme meilleur. Idols est tout le contraire d'une formation de jeunes singes savants propulsés par l'industrie. Plutôt 5 mecs moches, blancs et grassouillets, sortis depuis longtemps de l'adolescence. Nous nous sommes fait un nom en marge du système, en jetant nos forces dans notre musique maladroite et rugueuse, mais passionnée dès 2009. » Même le choix du rock, à l'heure où le rap serait la voie de la contestation et de l'émancipation, n'était pas la meilleure option pour échapper à une morne vie de petit boulot. Je suis un enfant du hip-hop, voire du trip-hop dont Bristol a été le berceau, mais le rap secouait surtout sur disque, car en concert j'avais l'impression de voir un plateau télé, des artistes qui s'en fichaient. L'excitation que je ressentis lors de mon premier concert de rock m'a converti. La force, l'énergie, le chaos, tout paraissait possible. Talbot se garde pourtant d'opposer les genres, puisque la dope, toute catégorie confondue, domine en majorité. Seul compte l'implication, le message, l'authenticité. Mais la plupart des artistes ne sont soucieux que de célébrité. D'une illusion de perfection, nous sommes l'antithèse absolue des émissions télé comme The Voice. Les gars d'Idols se veulent les chantres de l'imperfection, prônent l'homme vulnérable dont les failles seraient l'essence de son humanité. Si leurs chansons peuvent parfois donner l'illusion d'une succession de slogans primaires contre l'ultralibéralisme, le conservatisme, la xénophobie et le sexisme, ils ne prêchent qu'une seule idée, un appel à la compassion et à l'entraide, dans un monde de plus en plus replié sur lui-même, englué dans les discours d'exclusion et de haine. « L'amour finira bien par vous trouver », hurle-t-il en introduction de War, premier titre belliqueux du dernier album, en clin d'œil à Daniel Johnson, chanteur délicat et maniaco-dépressif disparu l'an dernier. Tout l'art d'Idols est contenu dans cette apparente contradiction. Violence de son pour générosité de propos, car le groupe évite le piège de la politisation à outrance. Talbot ayant le souci de parler avant tout de sa vie, de son propre vécu, de sa mère longtemps surexploitée dans son travail, dont il s'est occupé jusqu'à sa mort alors qu'elle était paralysée, de son enfant mort-né sur les albums précédents, ou bien, à présent, de ce Model Village, portrait au vitriol de la petite ville mesquine où il a grandi et qui se révèle un concentré d'Angleterre. Autant d'expériences, souvent douloureuses, qu'il ancre dans une réalité difficile à laquelle n'importe qui peut s'identifier. Tel est même le sens d'Ultra Mono. Un son, un cri étouffé qui résonne de manière assourdissante. Après des mois sans jouer ensemble, en 2019, il avait donné 190 concerts à travers le monde, le groupe se retrouve fin août dans les mythiques studios d'Abbey Road à Londres pour 3 concerts proposés en direct sur le web. 3 sessions tendues, cafouilleuses, mais animées d'une formidable intensité qui illustraient la précieuse nature d'Idols. 5 gars qui donnent tout sans compter, sans craindre de se planter, se présentant en toute sincérité, solidaires. Quitte à avoir le cran de tout lâcher, le jour où l'on sentira que le cœur n'y est plus. Talbot, dont le cauchemar serait de finir comme ces séries qui ne savent pas s'arrêter, espère pourtant être là pour longtemps. Son modèle, Nick Cave et ses Bad Seeds, pour sa constance, sa ténacité, son art d'évoluer et de se nourrir de ses blessures. Voilà une carrière exemplaire qui donne espoir, qui prouve que l'on peut durer en progressant, en préservant son intégrité. Voilà, écoutez Idols, un groupe porte-voix d'une jeunesse en pleine tourmente post-Brexit, des punks bienveillants qui reviennent avec un troisième album furieux, un cri d'amour et de révolte.
Comme une immense accumulation de spectacles.
Après la musique et le groupe Idols que l'on vient d'écouter avec son morceau War, je vous propose qu'on continue à parler ciné cette fois avec Seb et Pablo. Yalla!
Bonsoir à toutes et à tous. Une petite chronique pour rendre hommage à une grande actrice anglaise, Diana Rigg. C'est bel et bien d'Emma Peel qu'on se souvient d'abord. Il a suffi à Diana Rigg de trois petites années, entre 1965 et 1968, dans deux saisons de Chapeau melon et bottes de cuir, pour que le rôle lui colle à la peau, aussi étroitement que la mythique combinaison de cuir noir de son personnage. Emma Peel, l'agent très spécial qui distribuait les coups de pied jetés arrière sans renverser son champagne, frémissait à peine du sourcil devant les dangers les plus mortels et surtout sauvait la mise de son comparse John Steed, Patrick McNee avec lequel elle s'entendait à merveille, aussi souvent que le contraire. Un concentré de séduction à la mode britannique, mi-accessoire sexy, mi-figure proto-féministe, dont la distance ironique et le flegme aristo comptaient autant que le sexe à pied. Dans la foulée de chapeaux melons et bottes de cuir, elle se retrouve au service secret de Sa Majesté, de Peter Hunt en 1969, et au service d'un autre espion fameux, James Bond, incarné par George Lazenby. James Bond Girl, non, James Bond Wife. Diana Rigg, alias Tracy Di Vincenzo, est en effet l'unique Madame Bond de l'histoire du cinéma, laquelle n'échappe pas à un sort tragique. Son interprète, elle, gardait un mauvais souvenir de l'expérience, une erreur selon elle, et de George Lazenby lui-même. Son charme piquant, sa grâce à la fois malicieuse et hautaine, s'ancre pourtant encore une fois dans la mémoire collective. Et après, beaucoup de théâtre, un peu de cinéma et des rôles télévisés qui ont rarement dépassé les frontières du Royaume-Uni. Pendant plusieurs décennies, Emma Peel se transmet dans tous les imaginaires, de génération en génération. Mais le monde oublie un peu Diana Rigg, jusqu'à son grand retour en 2013 dans la série la plus mythique de l'époque, Game of Thrones, où Emma Peel disparaît enfin au profit de Lady Olenna Tyrell, aïeule au visage parcheminé, serrée dans d'épais voiles médiévaux. Méconnaissable, vraiment ? Non, juste plus âgé. L'œil toujours aussi vif, l'allure toujours aussi royale, Diana Rigg n'y perdait rien de son charisme so-british. Loin de chercher à déguiser son âge, elle en jouait avec classe, portant sur ses rides sans phare toute l'expérience, la ruse et la sagesse d'une Aliénor d'Aquitaine, d'une Catherine de Médicis au pays de la fantaisie. Un dernier mythe, ni sexy ni accessoire, puissant. Voilà, n'oublions pas Diana Rigg, de chapeau melon et bottes de cuir à Game of Thrones, elle affichait une classe so British.
On the stage, please. They're all waiting for you.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.
Yo les Bang Geeks, comment ça va bien aujourd'hui? Pour nous aider à traverser ces temps sombres, si ça peut aider modestement, avec mes camarades de Bang Geek Mafia sur Radio G 101.5 ou www.radio-g.fr, un petit moment philo, comme un voyage cérébral. Comme un voyage cérébral. Yalla!
Aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile.
À ce point ?
Oui, ça c'est normal. Donner ses données, reprendre ses volets.
Je m'excuse, mais je trouve ça trop injuste.
Quoi, on peut rien faire alors ?
Ça peut prendre du temps.
Mais c'est-à-dire, j'ai un souci de santé.
Si vous êtes pressé, on s'en sort plus.
Excusez ma grossièreté. Adieu les cons.
Je suis trappé. J'étais à l'agence de santé.
Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier.
On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail.
C'est sur moi que je tirais.
Ah bon ?
Prévenez à l'intérieur.
Est-ce qu'il peut récidiver ?
J'aimerais vous dire que non, mais maintenant, il est en fuite, en rage.
Madame, si je peux vous aider ?
C'est très gentil, mais je vois pas comment.
Si je retrouve le dossier, vous m'aiderez ?
Oui.
Waouh !
Waouh !
Wow.
Il pose son arme et on va discuter tranquillement.
C'est
pas.
Les mains derrière la tête.
C'est une méprise.
S'il vous plaît, docteur.
Vous êtes des médecins?
Oui, j'ai un petit garçon avec vous.
On a eu un enfant ensemble.
Un attrapé dans toutes les brunes à tempérament, elle cherche la vie, l'énergie du positif.
they're going to play this evening.
Hey, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Adieu les cons, le film Adieu les cons d'Albert Dupontel. Un film irrévérencieux et désespéré. C'est un film sombre que nous livre Albert Dupontel. En même temps, cette noirceur, c'est un peu sa marque de fabrique, non ? C'est une comédie dramatique où le comique chemine sur un fil très ténu, où il jaillit parfois par petites touches subtiles et assez géniales, avec quelques belles trouvailles, mais malheureusement trop rares. Ce film est aussi un signe des temps actuels, irrévérencieux et sombre. Dupontel y ajoute une touche désespérée. En résumé, lorsque Suzanne Trappé, Virginie Efira, apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade d'une maladie auto-immune qui ne lui laisse que très peu de temps à vivre, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire rencontrer en JB, Albert Dupontel, quinquagénaire en plein burn-out, suicidaire et informaticien de génie. Et Monsieur Blin, Nicolas Marié, archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable.
Your responsibility to do something about it.
Well, I have the key in my hand. All I have to find is the lock. The lock. The lock. The lock.
Now listen to me, all of you.
Dans ce film, le spectateur accompagne nos trois anti-héros dans leur quête à la fois absurde et audacieuse. Malgré la noirceur du propos et des images, l'humour se fraye un chemin et émerge, tantôt de façon impromptue, tantôt de façon attendue, mais efficace malgré tout. Dupontel nous rappelle que le désespoir, quand il confine à l'absurde, trouve des accents drôles qui nous surprennent. Le cinéaste-acteur est fidèle à son style irrévérencieux. Il y a certes quelques facilités scénaristiques, quelques blagues faciles et quelques scènes attendues, mais le ton reste mordant et l'humour corrosif. Un humour sans ménagement parfois. Le système est moqué, la police est moquée, même un handicapé aveugle est moqué. L'humour, même noir ou jaune, crée un lien empathique entre les gens. Il nous relie aux autres par un lien de connivence, de compréhension intuitive et sensible. En ressentant l'émotion, tragicomique et absurde de l'autre, je me mets à sa place et je partage la confusion de ses sentiments. Le film fait clairement référence à Brasil de Terry Gilliam, que l'on croise dans le film de Dupontel, en forme de clin d'œil hitchcockien. À vous de le trouver. La quête absurde, mais grandiose d'individus isolés face à un système fermé, aveugle et sourd, glacé et sombre, qui ressemble de plus en plus à une dystopie, l'inverse d'une utopie. Comme chez Terry Gilliam, Dupontel nous montre que l'essentiel se passe ailleurs, dans l'humain, au cœur de cette empathie qui nous relie les uns aux autres, qui nous relie les uns les autres, au cœur de ce qui nous fait cruellement défaut actuellement en période de crise sanitaire et de confinement. Dans Adieu les cons, Dupontel nous rappelle que face à un système imbécile, l'essentiel se trouve dans l'humain. Il nous rappelle que dans une période aussi sombre, aussi trouble que la nôtre, il est essentiel de rester relié à ses émotions et à celles des autres. À ce propos, la romancière britannique Mallory Blackman écrivait dans « Entre chien et loup », deux points, ouvrez les guillemets, « Mon désespoir était le sien ». Son désespoir était le mien, comme si le seul rempart que nous avions trouvé dans ce monde était notre amour. Point fermé les guillemets. Est-il si absurde de se battre contre la connerie ? C'est certes absurde et désespéré, mais paradoxalement, ce n'est pas vain. Cela a du sens. le sens de l'humanité et du courage que nous mettons dans ce combat, le sens de l'énergie que nous mettons dans cette révolte, le sens des émotions qui nous rend solidaires des autres. Comme dans La Peste de Camus, où Tarou et Rieux combattent de façon acharnée le fléau, même s'ils savent que tôt ou tard, il reviendra. Cela ne les empêche pas d'être amis et, à la fin du roman, de nager ensemble dans la mer, de partager ce moment entre effort et abandon. Dans une lettre à un ami allemand, ce même Albert Camus écrivait « Deux points, ouvrez les guillemets, le vrai désespoir ne naît pas devant une adversité obstinée, ni dans l'épuisement d'une lutte inégale. Il vient de ce qu'on ne connaît plus ses raisons de lutter, et si justement il faut lutter. » Merci de votre écoute.
Bonsoir à toutes et à tous, ce soir je vais vous parler du film Les 7 de Chicago. En 1969, les États-Unis vécurent l'un des procès les plus rocambolesques de leur histoire, celui des 7 de Chicago, qui comme les 3 mousquetaires était en réalité un de plus. Leaders de différents groupes activistes, étudiants, défenseurs de la contre-culture, Black Panthers et militants anti-guerre du Vietnam, accusés à tort par l'administration Nixon d'avoir fomenté ensemble et sciemment les émeutes sanglantes qui accompagnèrent la Convention nationale d'août 1968. Scénariste monumental au cinéma, de Social Network, à la télévision, à la Maison Blanche, Aaron Sorkin s'est emparé avec brio de cette histoire vraie pour sa deuxième réalisation, sortie en salle outre-Atlantique mais qui arrive directement sur Netflix en France. Il a évité le piège du film à thèse balourd et a insufflé un vent de révolte anti-establishment galvanisant qui illustre de manière frappante les préoccupations actuelles de l'Amérique. Initié par Steven Spielberg il y a une quinzaine d'années, ce projet a été réactivé à l'aube de la présidence de Donald Trump. Une préscience politique qui se vérifie 4 ans après, tant le parallèle entre l'esprit frondeur des opposants au pouvoir de la fin des années 60 et celui qui anime une partie des États-Unis aujourd'hui s'est renforcé durant la création du film. Les mensonges de l'administration Nixon pour mater la rébellion n'ont rien à envier aux jongleries avec les vérités de l'actuel clown de la Maison-Blanche pour diviser l'opinion. Le racisme systémique à l'égard des Afro-Américains dénoncé par le mouvement Black Lives Matter trouve un triste écho dans le traitement réservé au leader des Black Panthers, Bobby Seale, lorsqu'on lui demande s'il parvient à respirer après avoir été littéralement bâillonné en pleine audience. Impossible de ne pas penser à la phrase « I can't breathe » prononcée par Eric Garner et George Floyd, tous deux tués par des policiers en 2014 et 2020. Je suis sentimental, j'aime ce papy, mais je ne supporte pas ce que j'y vois, chanter Leonard Cohen dans « Democracy ». Un air que pourrait reprendre Aaron Sorkin, qui, avec les 7 de Chicago, célèbre les idéaux démocratiques américains, la liberté d'expression, les contre-cultures et même une forme d'harmonie des luttes. Mais s'en prend violemment au système, à l'armée mobilisée à tort et à travers, à la brutalité policière et plus encore à une justice politisée et rétrograde. Ça fait des années que je n'y comprends plus rien, lâche Rennie Davis, militant anti-guerre du Vietnam embarqué dans un procès politique pour ses idées. Incarnation de cette justice dysfonctionnelle, Julius Hoffman, joué par Frank Langella, magistrat septuagénaire autoritaire mais complètement dépassé, qui semble avoir décidé avant même le début des audiences que les accusés sont coupables. L'histoire est grave, mais Aaron Sorkin parvient à nous faire rire pour mieux souligner sa violence et son absurdité. Expert en répliques qui fusent, le scénariste et réalisateur maîtrise sur le bout des doigts les mécanismes du stand-up et alterne entre la tchatche des militants libertaires, Abby Hoffman et Jerry Rubin, joués par Sacha Baron Cohen survolté, et Jeremy Strong, tordant de nonchalance, et l'ironie pinçante de l'avocat William Kunstler, joué par Ryan Reynolds, délicatement hautain. Ponctué par des conférences de Hoffman aux airs de One Man Show, les 7 de Chicago pimentent sa critique du système en tournant en dérision le procès. Les prises de bec entre Rubin, Hoffman et le juge Hoffman, aucun lien de famille, s'exclame en boucle le militant, forment une merveille de comédie entre sketchs costumés, interventions intempestives et distribution d'outrages au tribunal. Connu pour signer les scénarios les plus épais de Hollywood, Aaron Sorkin est capable de rendre trépidante une scène en huis clos où deux protagonistes débattent de leur stratégie juridique. C'est seulement son deuxième film derrière la caméra, après Le Grand Jeu en 2017, mais il sait déjà harmoniser l'énergie de sa mise en scène et celle de ses mots, multipliant les séquences en walk and talk, des personnages marchent tout en parlant, ou parlent tout en marchant, montage nerveux, flashback, musique omniprésente, effets visuels. On pourrait sortir assommé des sets de Chicago, mais Sorkin ne se dépense pas dans le vide. Il ne confond jamais intensité et empressement. Tout va très vite dans son film. Les personnages et les informations s'empilent, et on comprend tout, comme à la grande époque de la très dense à la Maison Blanche. Soutien du Parti démocrate, Aaron Sorkin tend à l'Amérique un miroir forcément orienté politiquement. C'est sa force et peut-être sa limite. Néanmoins, il le fait avec une énergie contagieuse, digne de Frank Capra, sans angélisme ni caricature. S'il prêche avant tout des convertis, et ne fera pas changer d'avis les partisans de Trump, Sorkin a le mérite de tirer la sonnette d'alarme auprès des indécis ou des réfractaires aux urnes. Il termine son film par une invective empruntée aux manifestants de l'époque. « The whole world's watching », »,« Le monde entier nous regarde », une manière de responsabiliser ses concitoyens, acteurs potentiels du changement. Donc voilà, 1969, c'est une année politique. L'abracadabrante affaire des 7 de Chicago, des activistes poursuivis par l'administration Nixon, est restée dans les mémoires américaines. 50 ans plus tard, Aaron Sorkin s'en empare, un grand film qui résonne avec l'actualité. We'll be right back.
a person quite so sad. You got the answer, and it makes me glad. When I feel that smile, you give me rock and roll, and then I feel it back. You're so good, the way you give.
Trois romans de l'auteur islandais Arnaldur Indridason. Avant de vous en parler, et pour ceux qui seraient passés à côté du phénomène, je vous propose une rapide présentation de l'écrivain à succès. Diplômé d'histoire, Indridason a commencé sa carrière en tant que journaliste. Également scénariste indépendant, il travaille comme critique de films dans les années 80-90. Il publie son premier livre en 1997, Piste de poussière. Je vous épargnerai ce soir tout au long de cette chronique les titres originaux en islandais, même si j'imagine que cela aurait bien amusé mes camarades. Donc cette publication marque pour certains, comme Arlan Coben, le départ d'une nouvelle vague islandaise de fiction criminelle. Aux côtés d'Ami pour Andrinsson, également auteur islandais de polar, Arnaldur déclare qu'il n'existe pas de tradition de polar en Islande. À cet état de fait, il y a deux raisons. L'une tient en ce que les gens, y compris les écrivains, considéraient les histoires policières comme de mauvais romans. La deuxième raison, c'est que beaucoup d'Islandais ont longtemps cru en une sorte d'innocence de leur société. Très peu de choses répréhensibles se produisaient et le peu de faits divers ne pouvait pas donner lieu à des histoires policières. Ce qui explique qu'à leur début, Thorarinsson ou Indridason ont du mal à s'imposer dans les milieux littéraires islandais. Aujourd'hui, Indridason est l'auteur d'une vingtaine de romans policiers, quasiment tous traduits en français. Bon nombre d'entre eux sont devenus des best-sellers. Par ailleurs, les livres d'Arnaldur ont été publiés dans 26 pays et traduits en allemand, danois, en anglais, en français, en italien et j'en passe. Arnaldur a reçu le prix Clé de Verre, un prix de littérature policière scandinave en 2002, mais aussi en 2003. Il a également gagné le Gold Dagger Award, prix littéraire britannique en 2005 pour La Femme en Vert, qui est l'un de mes romans préférés d'ailleurs. Les principaux romans d'Arnaldur Indridason mettent en scène la même équipe d'enquêteurs dont la brute Erlendur torturée par la disparition de son frère alors qu'il n'était qu'un enfant et tourmenté par sa fille toxicomane. Ce sont ses souffrances et les conditions qui les ont engendrées qui intéressent particulièrement Arnaldur. Ses romans sont régulièrement des prétextes à un voyage dans le passé, tel l'homme du lac, où l'enquêteur Erlendur trouve un squelette vieux de 40 ans faisant appel au passé communiste d'une partie des Islandais durant la guerre froide. Arnaldur déclare à ce propos « Je m'intéresse aussi aux squelettes qui collent au basque des vivants. Ce qui m'intéresse le plus, ce sont les squelettes vivants, pourrait-on dire. Mes romans traitent de disparition, mais ils ne traitent pas principalement de la personne qui a disparu, plus de ceux qui restent après la disparition, dans un état d'abandon. Je m'intéresse à ceux qui sont confrontés à la perte. » Ce sont ces gens-là que j'appelle les squelettes vivants. Ils sont figés dans le temps. J'aime beaucoup remonter le temps et envoyer mes personnages sur les traces du passé. J'aime exhumer des événements oubliés. Le temps en tant que concept est quelque chose qui m'intéresse énormément. La manière dont le temps passe, mais aussi son influence, les conséquences de son passage sur nos vies. J'aime déceler les liens entre une époque ou une autre. Évidemment, la thématique du temps est une partie très importante des histoires que je raconte, que ce soit son pouvoir destructeur ou son pouvoir de guérison qu'il peut avoir. Même si, dans La Femme en Vert, Erlendur déclare que le temps ne guérit aucune blessure. La trilogie des ombres nous fait justement remonter le temps, puisqu'elle nous plonge dans l'Islande de la Seconde Guerre mondiale. C'est cette trilogie que j'ai pu lire cet été, en tout cas les deux premiers volets. Elle s'ouvre avec le tome 1 qui s'intitule « Dans l'ombre ». On y suit, au départ, un représentant de commerce qui est retrouvé dans un petit appartement de Reykjavik, tué d'une balle de Colt et le front marqué d'un SS en lettres de sang. Rapidement, les soupçons portent sur les soldats étrangers qui grouillent dans la ville cet été 1941. Deux jeunes gens sont chargés des investigations. Flovan, le seul enquêteur de la police criminelle d'Islande, ex-stagiaire à Scotland Yard, et Thorson, l'Islandais né au Canada, désigné comme enquêteur par les militaires puisqu'il est bilingue. L'afflux des soldats britanniques et américains bouleverse cette île de pêcheurs et d'agriculteurs qui évolue rapidement vers la modernité. Les femmes s'émancipent, les nazis, malgré la dissolution de leur parti, n'ont pas renoncé à trouver des traces de leur mythe et de la pureté aryenne dans l'île. Par ailleurs, on attend en secret la visite d'un grand homme. Donc les multiples rebondissements de l'enquête dressent un tableau passionnant de l'Islande de la situation. Cette occupation de jeunes soldats qui sème le trouble parmi la population féminine. Il révèle aussi des enquêteurs tenaces, méprisés par les autorités militaires, mais déterminés à ne pas se laisser imposer des coupables attendus. J'ai aimé le sujet, mais peut-être un peu moins le manque de dynamisme de l'écriture présente dans ce tome. La lenteur de l'action et les nombreuses fausses pistes sur lesquelles nous amène Indridason ne m'ont pas permis d'être captivée, comme je le suis d'ordinaire à la lecture de ses romans. J'ai tout de même enchaîné sur le deuxième volet intitulé « La femme de l'ombre » dans lequel on retrouve les deux complices Flovan et Thorson. J'ai davantage accroché cette fois-ci à l'intrigue, toujours aussi complexe, dans laquelle plusieurs affaires scabreuses et difficiles nous seront révélées et peu à peu les liens qui les unissent. Au départ, un jeune homme est victime d'une attaque bestiale, impitoyable près d'un bar fréquenté par les militaires américains. Puis, des pêcheurs se heurtent au corps d'un homme noyé ramené sur le rivage par les vagues. Mais avant, une jeune Islandaise ayant travaillé en Norvège et en Suède profite de l'autorisation des Allemands de rentrer au pays et pleure son fiancé, justement arrêté par la Gestapo au Danemark. La guerre, l'occupation, la collaboration, la résistance, toujours en trame de fond de cette histoire, nos deux policiers qui ont développé une solide collaboration et aussi une belle amitié ne sont pas au bout de leur peine et devront affronter le mutisme des certains témoins, mais surtout cette grande et immensément organisée institution qu'est l'armée. Il ne me reste de mon côté plus qu'à lire le dernier volet de la trilogie qui est intitulé « Le passage des ombres ». Bien évidemment, je vous ferai un petit retour de ma lecture dans l'émission. Je vous propose pour finir un dernier roman d'Indridason, La muraille de lave, qui traite de tout autre chose et que j'ai aussi donc eu l'occasion de lire cet été. Le déroulement de La muraille de lave aurait pu se situer en 2007, alors que la crise des subprimes se propage à l'échelle mondiale. Les dérives du système financier ont probablement interpellé Indridason, qui est aussi journaliste, comme je vous l'avais précisé en introduction, lui donnant matière à la construction de ce roman policier dans lequel les nouveaux vikings de la finance se croient tout permis. Paradis fiscaux, sociétés écrans, blanchiment de capitaux, spéculation à outrance, etc. C'est dans un contexte donc économique et financier où les limites du raisonnable sont depuis longtemps dépassées que l'inspecteur en second Sigurdur Holli mène de front plusieurs enquêtes criminelles qui a priori n'ont pas de lien entre elles. On retrouve de la pédophilie, un meurtre et une disparition suspecte. L'empathie n'est pas du tout le fort de Sigurdur Holli. Il serait plutôt condescendant, voire manichéen. Il faut néanmoins lui reconnaître une témérité dans l'action et une efficacité à conduire des investigations, malgré une façon de procéder en solitaire pas toujours académique. Les fervents lecteurs d'Indridason regrettent sûrement l'absence du commissaire Erlendur, qui est ici injoignable, puisque en vacances. La personnalité de ce dernier est sans doute plus consensuelle que celle de son subalterne. Indridason dépeint ici une société islandaise complètement désabusée et nous dresse un tableau très sombre avec des protagonistes ne dégageant pas vraiment la joie de vivre et où les comportements déviants parsèment constamment l'intrigue. Le rythme du polar est par contre assez haletant, les rebondissements incessants et l'épilogue dans le milieu opaque de la haute finance ne déçoit pas. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Pour rester dans le thème et pour votre plus grand plaisir, j'imagine, je vais vous laisser, chers camarades chroniqueurs et bien sûr chers auditeurs, avec un groupe. Le groupe qui représentait l'Islande à l'Eurovision 2020 et son titre « Think About Things ». Là encore, je suis désolée, je ne tente pas du tout la prononciation du groupe et je vous laisserai chasamer si cela vous intéresse. Je vous retrouve pour une nouvelle chronique dans 15 jours sur les ondes de Bande Geek Mafia 101.5, la radio qui fait le point. Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there.
Radio G 101.5 FM.